Edwige, dis-moi, connais-tu des gens qui portent le nom de Foucault ?
Non, je ne crois pas.
En es-tu sûre ? Pourtant, tu sais, Foucault est un nom très répandu en France. Tu l'as certainement déjà entendu. Tiens, par exemple, rien que dans mon village natal, j'ai des amis qui s'appellent Foucault. Yvon et Simone Foucault. Et puis, je connais aussi une ville qui contient ce nom, la ville de La Rochefoucauld. Et Charles de Foucault, tu le connais ?
Un peu, j'en ai entendu parler.
C'est un grand témoin de l'amour du Seigneur, tu sais. Veux-tu que je te raconte son histoire ?
Oh oui !
Charles de Foucault, le petit frère universel. La famille de Foucault, dont fait partie Charles, est une famille très ancienne. Elle est connue dès l'époque carolingienne. Tout au long de l'histoire, on rencontre assez souvent des ancêtres de Charles. Surtout au service des rois, dans les différentes cours royales. Au temps des croisades, par exemple, Bertrand était au service de Louis IX. D'autres sont prêtres, comme par exemple Armand de Foucault, qui est mort martyr le 2 septembre 1792. C'est à Strasbourg que François-Édouard, nommé sous-inspecteur des forêts, épouse en 1855 Élisabeth de Morlaix, fille d'un colonel à la retraite. Le jeune couple connaît très vite une cruelle épreuve. Leur premier enfant, Charles, meurt âgé de quelques mois. Le 15 septembre 1858 naît le second, Charles Eugène. C'est notre Charles de Foucault. Il sera considéré comme l'aîné. Quelques années plus tard, en 1861, c'est une fille qui voit le jour, Marie. Charles a 6 ans, il est heureux, son enfance est paisible, calme, entourée de ses parents. Sa maman, très pieuse, s'occupe de son éducation religieuse et cherche à faire grandir dans le cœur de Charles l'amour du Seigneur. Et c'est à nouveau un temps d'épreuve. François-Édouard a une grave maladie du cerveau. Il va mourir.
Charles, ton papa est très malade. Il va aller à Paris pour y être soigné. Pendant ce temps-là, Marie, toi et moi, nous allons partir en vacances chez grand-père.
Oh, c'est chouette ça, maman. On va y rester longtemps ?
Je ne sais pas, mon petit.
Répond la maman, bouleversée. La maman, Élisabeth, et ses 2 petits-enfants, Charles et Marie, sont accueillis par Monsieur de Morlaix, le père d'Élisabeth. Mais cette dernière, enceinte, rongée par l'angoisse et la peur face à la maladie de son mari, meurt d'une fausse couche le 13 mars 1864. Son mari ne tardera pas à la suivre. 5 mois plus tard, il meurt à son tour. Charles ne comprend pas. Il a 6 ans. Tout le monde s'agite autour de lui en silence. On chuchote.
Viens, petit, ne reste pas là.
Pourquoi ? Je veux voir papa. Où est papa ?
Charles est triste. Il se renferme sur lui-même. Et maintenant, qui va s'occuper de lui ? C'est son grand-père, le colonel de Morlaix, qui va prendre en charge son éducation. Pour le distraire et le sortir de sa tristesse et de son silence, le colonel emmène souvent Charles se promener dans la grande ville de Strasbourg.
Charles ! Veux-tu venir avec moi en ville ?
Oui, grand-père, j'arrive.
Tout en se promenant, Le colonel raconte à Charles de nombreuses anecdotes historiques sur la ville de Strasbourg et ses monuments.
Tu vois cette maison ? C'est de cette maison que l'on appelle l'hôtel Dietrich, qu'ont retenti en avril 1792 les premières notes de la Marseillaise. C'était magnifique.
D'autres fois, le colonel emmène son petit-fils près du kiosque à musique, où des musiciens de talent jouent de très beaux concerts pour les passants. Mais rien de tout cela ne distrait Charles, qui devient de plus en plus un enfant triste, gardant au plus profond de son cœur le souvenir des caresses et des câlins de sa maman. Quelques années plus tard, en 1868, il entre au collège diocésain de Strasbourg. Il est un élève sans histoire, calme, il a de bons résultats. Mais on peut se rendre compte tout de même qu'il ne recherche pas les contacts avec ses camarades, même s'il a, à cette époque déjà, des amis et des amitiés fidèles, comme par exemple Gabriel Tourde, avec qui il passe des heures et des heures à lire et à discuter sur ses lectures. C'est un véritable mangeur de savoir. Malheureusement, il ne mange pas que le savoir. C'est à cette époque aussi qu'il se met à manger, manger, manger beaucoup de nourriture. Il devient boulimique.
Charles, tu viens jouer avec nous ?
Bof, à quoi vous jouez ?
On joue aux gendarmes et aux voleurs. Allez, viens !
Oh non, j'ai pas très envie.
L'été qui suit sa sixième, Charles passe ses vacances chez sa tante Inès, la sœur de son père. Ce sont des vacances heureuses, grâce à l'oncle qui raconte toujours des histoires à dormir debout.
Et alors, j'étais là, seul, dans cette rue, en face de ce sauvage qui était armé jusqu'aux dents. Alors que je n'avais qu'un malheureux parapluie, eh bien vous me croirez si vous voulez, mais je me suis mis à crier, à hurler, tout en brandissant mon parapluie avec vigueur.
Et alors ? Raconte vite, tonton.
Et alors, le sauvage a fait demi-tour et s'est enfui en courant.
Ce furent des vacances heureuses grâce, surtout, aux deux cousines, Catherine et Marie. Catherine est déjà mariée. C'est surtout avec Marie, la cadette, que Charles passe beaucoup de temps. Elle a 19 ans, elle considère Charles comme son petit frère. Elle a beaucoup d'affection pour lui. Charles se sent moins seul. Avec Marie, sa grande cousine, il peut parler à cœur ouvert et il se sent merveilleusement compris. La L'année suivante, en 1870, c'est la guerre. Le vieux colonel emmène sa femme et ses petits-enfants se réfugier en Suisse. C'est l'exode. Quelques jours plus tard, Strasbourg est bombardé. C'est la défaite. Charles et Marie sont à l'abri, bien sûr, avec le colonel, leur grand-père. Mais ce dernier continue à se tenir au courant de tout ce qui se passe. Et Charles sent de nouveau peser autour de lui des heures terribles. Il a peur. L'Allemagne est victorieuse. Pas question pour le colonel de rentrer à Strasbourg. Alors il décide de s'installer à Nancy. La ville est occupée, mais il n'a pas le choix. Charles doit reprendre l'école. Il entre en troisième à Nancy. Son adolescence fut comme son enfance, très triste. Les événements nationaux et la présence des vainqueurs à Nancy furent très durs à supporter pour Charles. C'est cette année-là qu'il fait sa première communion. Cette cérémonie laissera une forte trace dans son esprit. Il fut enseigné par un prêtre bon et très pieux. D'autre part, l'ambiance familiale chez ses cousines Marie et Catherine est très pieuse aussi.
Tiens, c'est un cadeau pour toi.
Oh, un livre. Les élévations sur les mystères. De Bossuet. Merci Marie.
C'est à cette époque aussi qu'il découvre la dévotion au Sacré-Cœur.
Charles, cet après-midi, tout près d'ici, dans le village voisin, on élève une statue du Sacré-Cœur dans l'église. Viens voir avec moi.
Oui, j'arrive.
Les deux enfants sont là et ils regardent l'installation de cette statue du Sacré-Cœur dans l'église du village des vacances. Mais bientôt, c'est le doute, le scepticisme. On vit une époque troublée. La société ne sait plus très bien où elle en est. Elle doute, elle ne croit plus, plongée dans l'irreligion. Beaucoup de livres paraissent disant que la foi n'existe pas, que l'athéisme est la vérité. Charles est très sensible à tout ceci. Il écoute ce qui se dit autour de lui. Il lit énormément de livres, toujours avec son ami Gabriel. Pendant cette période de doute que connaît Charles par rapport à la foi, une nouvelle souffrance. Marie, sa cousine, épouse le vicomte de Bondy. C'est très dur pour Charles. Sa cousine était pour lui comme une sœur. Elle l'aidait beaucoup. Maintenant, elle ne pourra plus prendre soin de lui comme avant. Alors à nouveau, il se ferme.
Charles, il est temps pour toi de commencer à entrer dans le monde des adultes. Tu vas commencer des études. Qu'est-ce qui t'intéresse? Le capitalisme? Les sciences?
Le capitalisme et les sciences sont effectivement très à la mode à l'époque.
Non, grand-père, le capitalisme ne m'intéresse pas beaucoup. Les sciences? Bof, non, je ne pense pas. Mais ce qui me tenterait, c'est vraiment l'armée.
On retrouve ici la fibre patriotique née chez Charles au moment de la guerre de 70, lorsqu'il fut exilé. Il se prépare pour le concours d'entrée à Saint-Cyr. Il le passe et est reçu 82e sur 412. C'est le 25 octobre 1876 qu'il s'engage pour 5 ans dans l'armée. Mais il doit servir l'armée. Or, il tourne le dos à la discipline et cherche les plaisirs, surtout les plaisirs de la table. En 2 ans de séjour à Saint-Cyr, Foucault a été puni 45 fois pour négligence, paresse, indiscipline. Il travaille de moins en moins et compte de plus en plus sur sa vive intelligence et sa grande mémoire pour ne pas échouer aux examens. Sa grande passion, ce sont les plaisirs de la table. À l'entrée de Saint-Cyr, il a déjà failli être refusé parce qu'il était trop gros. Il n'avait que 18 ans, mais il abusait déjà de la bonne chère et des bons vins. À Saint-Cyr, cela ne s'arrange pas. Il partage sa chambre avec Maurès, un joyeux compagnon lui aussi. Une fois installé dans leur chambre, il se procure tout le luxe possible et imaginable. Maurès se fait faire des habits par des tailleurs pour soigner son élégance. Foucault lui fait plutôt provision de beaux livres, de nourriture, de vieilles bouteilles de bon vin, d'un fauteuil et même d'une chaise longue. En février 1878, son grand-père, le colonel de Morlaix, meurt. C'est une grande souffrance pour Charles, et cette épreuve rouvre les blessures de son enfance. Il se réfugie encore davantage dans les plaisirs de la vie, et ce d'autant plus qu'il est devenu très riche, car il a hérité de la fortune de son grand-père. Il est de plus en plus indiscipliné, n'obéit plus du tout aux règles de l'école. Levée matinale, gymnastique, équitation, cours d'art militaire, Charles ne fait plus rien de tout ceci. Cette indiscipline a une conséquence immédiate pour Foucault et Maurès. Ils sont très souvent punis et aux arrêts dans leur chambre.
Oh, mais c'est impossible de tenir! J'en peux plus, moi! Il faut absolument que je sorte d'ici. Cette sacrée discipline qui me prive de ma liberté. Je voudrais sortir, aller me promener, profiter de ce temps splendide.
Du calme, Maurès! Arrête de t'agiter comme ça! Cesse de faire les 100 pas dans cette chambre! On est très bien ici! Regarde-moi, fais comme moi, installe-toi sur la chaise longue, prends un bon cigare, mange un petit peu, sers-toi un bon verre de vin et vis. Vis tout simplement, on est bien ici.
Il a 20 ans. Il ne sait plus que faire ni qu'inventer pour s'amuser. Vers la fin de son temps à Saint-Cyr, alors qu'il est une fois de plus puni et aux arrêts, il apprend qu'il va y avoir une fête à Tours. Il ne veut pas la manquer, mais il n'a pas le droit de sortir. Alors il emprunte une blouse et une casquette d'ouvrier. Il cache son visage avec une fausse barbe, passe devant la porte de sortie de l'école sans être reconnu. Il prend le train. Arrivé à Tours, il commence par manger dans un petit restaurant. Mais le patron du restaurant lui trouve une drôle d'allure. Surtout lorsque soudain, la fausse barbe de Charles se décolle. Persuadé qu'il est en présence d'un bandit, le patron appelle la police.
Allô, le commissariat. Excusez-moi de vous déranger, mais j'ai un client là, qui a l'air un peu bizarre. Il est déguisé, il a une blouse d'ouvrier et une fausse barbe.
Peu après, deux agents viennent et emmènent Charles. Arrivé au poste de police, Charles est directement conduit devant le commissaire. Il lui raconte son histoire.
« Eh bien voilà, en fait, j'étais aux arrêts à l'école. Et puis, j'ai appris qu'il y avait une fête à Tours. Alors je me suis dit, il faut que j'y aille. Je me suis déguisé, je suis sorti. J'ai pris le train et me voilà. Malheureusement, mon déguisement n'a pas tenu. » Et ma barbe s'est décrochée, ce qui inquiétait le patron du restaurant.
Le commissaire éclate de rire et le relâche. Charles sort en riant lui aussi. Malheureusement, à ce moment-là, dans la rue, il rencontre le général Lott, son commandant. Lui, ça ne le fait pas rire. Charles en récolte 30 jours d'arrêt en plus. Il sort de Saumur, où il est resté un an, en 1879, dernier de sa promotion. Il est nommé sous-lieutenant au 4e Hussard à Sézanne. Il est toujours aussi gros, le visage épais, la bouche gourmande, le regard vivant. Il est aimable, généreux, amusant, et il sait se faire bien voir de tous.
Tiens, mais c'est ce cher duc de Fitz, James.
Oui, c'est bien moi. Comment vas-tu?
Eh bien, en fait, pas très bien. Je cherche un lieu sympathique où l'on puisse bien manger. Je ne trouve rien. Tu ne connaîtrais pas une bonne adresse?
Pas de problème, tu frappes à la bonne porte. J'ai un ami, Charles de Foucault, qui a le cœur sur la main. Il est sous-lieutenant au 4e hussard. C'est un bon gros à la mine réjouie. Il est très gourmand et aime bien régaler ses amis. Il est simple, n'éblouit jamais avec son luxe. Je suis sûr que tu te sentiras bien chez lui. Il est difficile de ne pas aimer et estimer un si bon camarade. Il est tellement sympathique, généreux, loyal, courageux. Et laisse-moi te dire qu'il est cultivé. Il a passé beaucoup de temps plongé dans les livres, tu sais. Il te plaira.
Tu m'intéresses, j'aimerais vraiment le rencontrer.
Charles mène la belle vie. Il s'amuse, vit de plaisir. C'est à cette époque qu'il rencontre une certaine Mimi, assez peu vertueuse. Il se lie avec elle. Mais malgré toute cette vie de plaisir, d'amusement, il n'est pas heureux. Il cache au plus profond de son cœur quelque chose qu'il ne dirait à personne.
Je fais le mal, mais je ne l'approuve ni ne l'aime.
Plus tard, il dira devant la croix du Christ:
Vous me faisiez sentir, Seigneur, un vide douloureux, une tristesse que je n'ai jamais éprouvée qu'alors. Elle me revenait chaque soir, lorsque je me trouvais seul dans mon appartement.
Une année se passe. En décembre 1880, son régiment est appelé en Algérie. Il est prêt à partir, mais pas à changer de vie. Et il emmène Mimi. Catastrophe. Il arrive avec elle en Algérie et la présente comme son épouse. Mimi joue fort bien son rôle.
Bonjour, très chère. Quel est votre nom?
Bonjour, madame. Je suis madame de Foucault, l'épouse du sous-lieutenant Charles de Foucault.
Ah, enchantée.
Tout se passe bien. Mais quand le colonel et les autres officiers arrivent, la vérité éclate et c'est le scandale.
C'est une honte! Abuser ainsi de la crédulité des honnêtes gens.
Rendez-vous compte! Elle est venue se présenter à moi comme étant l'épouse de Foucault. Quel affront!
Pendant ce temps, avec le colonel.
Foucault, renvoyez cette femme. Elle n'a rien à faire ici.
Mais celui-ci, ne tenant pas compte des remontrances et de l'ordre de son colonel, sort de plus en plus en compagnie de Mimi, l'emmenant partout. Alors le scandale redouble.
Qu'elle parte!
Elle déshonore le régiment, et Foucault aussi d'ailleurs. Qu'on les expulse!
Alors, assailli de protestations, le colonel appelle son sous-lieutenant et lui demande de choisir.
Foucault, ce scandale est intenable. Nous ne pouvons continuer ainsi. Vous choisissez ou votre ami ou le régiment.
Mon colonel, je ne chasserai pas mon ami.
Bien, je vais faire prévenir Paris.
La décision de Paris parvient, claire et précise. Foucault est mis en non-activité. On lui retire son emploi pour indiscipline et inconduite. Cela lui est égal, il part pour Évian avec Mimi. En apprenant la nouvelle de son renvoi, sa famille est désespérée.
Charles a brisé sa carrière. Il est aux mains d'une aventurière. Tout est perdu.
Quel inconscient!
Mais qu'est-ce qui lui a pris?
Mais 3 mois plus tard, en juin, Foucault ouvre un journal pour passer le temps. Il a plutôt envie de dormir et de bâiller, lorsque tout d'un coup, les mots qu'il lit éclatent et brûlent son cœur comme un feu. Sud-Oranais, insurrection des Ouled Sidi Sheikh. Le 4e chasseur est jeté en plein combat. Le 4e chasseur, mais c'est son régiment en Algérie. Foucault lit et relit l'article. Le silence du désert, les cavaliers au grand galop, les coups de feu, les Arabes, les chasseurs d'Afrique, les visages de ses camarades courant au combat. Tout cela monte au cœur de Foucault. camarades sont tous au combat et Foucault, lui, est à Évian. Impossible. En une seconde, Foucault décide de partir, sans Mimi. Il rentre à Paris et demande à réintégrer son régiment.
Bonjour, je suis Charles de Foucault, sous-lieutenant du 4e chasseur d'Afrique. Je demande à rejoindre mon régiment.
Mais vous avez été renvoyé parce que vous n'obéissiez pas aux ordres. On ne peut pas vous reprendre comme ça.
S'il vous plaît, laissez-moi rejoindre mon régiment. Je suis prêt à m'engager comme simple soldat s'il le faut.
Alors, on lui rend son grade. Charles a changé. Il éprouve un profond dégoût des plaisirs de toutes sortes. Il ressent en son cœur un sursaut de fierté. Il part, il va se battre. Il débarque en pleine guerre, au cœur du Sahara. Il se donne à fond, se bat comme un lion. Il se fait estimer de ses chefs et aimer de ses camarades et de ses soldats. La Périne, son ancien camarade de Saint-Cyr, devenu lui aussi sous-lieutenant au 4e chasseur d'Afrique, est stupéfié par son changement.
Au milieu des dangers et des privations, ce fêtard se révèle un soldat et un chef. Je n'en reviens pas. Il supporte gaiement les plus dures épreuves, s'occupe avec dévouement de ses hommes. C'est impressionnant. Il fait même l'admiration des anciens du régiment, des connaisseurs.
Avec ses camarades, Foucault lutte pour vaincre. Mais loin de mépriser son adversaire, il en admire le courage et la foi religieuse. Lorsqu'il voit les soldats ou les civils musulmans s'arrêter au beau milieu d'une activité, se prosterner la face contre terre et crier « Allah Akbar, Dieu est le plus grand », il sent en son cœur une admiration jalouse. C'est ainsi qu'il découvre le monde arabe et qu'il commence à l'aimer. Il rêve de se plonger en plein cœur du monde arabe. Il demande à ses supérieurs un congé pour faire un voyage d'études au Maroc, pays qui, à l'époque, était interdit aux Européens.
« Je voudrais pénétrer le Sahara, le Maroc. Puis-je avoir un congé ?»«
C'est hors de question. »
Ses supérieurs le considèrent un peu comme une girouette qui change sans cesse d'avis. Alors aussitôt, Charles donne sa démission. Le 28 janvier 1882, il quitte l'armée pour la seconde fois. Cette fois-ci, ce n'est pas pour une femme. C'est pour l'Afrique du Nord. Il a 23 ans. Il se rend à Alger pour s'organiser et se préparer à partir à la découverte du Maroc. Ce pays l'attire car c'est un territoire immense dont les voyageurs européens n'ont exploré que 2 millions d'hectares sur les 56 que compte le Maroc. Mais ce pays refuse de laisser entrer les Européens, qu'ils prennent pour des espions venus estimer leurs richesses. Charles se prépare pendant un an. Il n'y a plus rien en lui du jeune homme paresseux et insouciant. Il est devenu très sérieux et travaille dur. Il apprend l'arabe, étudie les cartes, la géographie humaine et physique du Maroc, ou du moins ce que l'on en sait à cette époque. Il apprend à fond tout ce qu'il avait distraitement étudié à Saint-Cyr. Charles ne part pas au Maroc en aventurier, mais en explorateur scientifique. Il va établir des cartes, notant les altitudes, les longitudes et latitudes de ce pays immense. À la bibliothèque qu'il fréquente, il a rencontré Oscar McCarthy, le bibliothécaire en chef, lui aussi passionné de l'Afrique. Il donne de bons conseils à Charles et le guide dans ses lectures. Charles cherche un homme de confiance, un guide. Un jour de février 1883, Oscar lui présente
« Tiens, Charles, regarde cet homme qui vient d'entrer dans la bibliothèque. C'est le rabbin Mardoché. Il connaît le Maroc mieux que n'importe qui. Peut-être acceptera-t-il de te servir de guide ?»
Mardoché accepte. Pour ce voyage qui durera 11 mois, comme les Européens ne sont pas acceptés au Maroc, Charles doit se déguiser en juif et changer de nom. Il s'appellera le rabbin Joseph Alman.
Ce déguisement est-il vraiment nécessaire ?
Eh oui, si tu veux passer inaperçu et pouvoir te promener un peu n'importe où sans problème.
Charles va de découverte en découverte. Son premier contact avec le Maroc, un grand port avec de nombreuses maisons blanches, des oliviers, des palmiers et de hauts minarets. Autour de lui, dans le village, c'est un monde fantastique. des crieurs publics, des cavaliers drapés dans leurs burnous, des charmeurs de serpents, des mendiants se lamentant à tue-tête, des femmes voilées qui vendent, par terre, des poteries, des volailles, des dattes, des herbes de toutes sortes. Il y a aussi de nombreux conteurs, chanteurs et musiciens qui jouent au carrefour. On rencontre dans ces rues des passants de toutes races. Foucault s'émerveille. Il circule à travers ces terres inconnues, affronte bien des dangers. On essaya à deux reprises de l'assassiner. Il fut à chaque fois sauvé par les Arabes. C'est là qu'il goûta l'hospitalité des Arabes, une hospitalité qui le bouleversa par sa simplicité. Pendant ce voyage, il note sur un petit carnet toutes ses observations. En 11 mois, il a pu explorer, sur 3 000 kilomètres, les parties les moins connues du Maroc. Ce dur travail, cette mine de renseignements, lui permettent d'écrire un livre, « Reconnaissance au Maroc », en 1886. Pendant qu'il accomplit tout ce travail au Maroc, au-dedans de lui, Dieu travaille, lui aussi, sans que Charles s'en rende compte, à travers toutes ses observations sur l'islam, à travers toute l'ouverture de son cœur. Charles se sent de plus en plus souple et disponible. Il a soif de vérité. Ces quelques mois au Maroc ont creusé d'une manière incroyable cette soif de vérité. Le Seigneur va répondre. Rentré du Maroc, Charles passe ses vacances chez les Moitessiers, avec l'oncle, la tante Inès, Marie et son époux, le vicomte de Bondy. C'est l'occasion pour lui d'avoir avec Marie de longues conversations sur le bien, la vérité. Il retrouve avec Marie cette profonde amitié qui les unissait. Il est très pris par la rédaction de son ouvrage sur le Maroc. Il a déjà établi de nombreuses cartes topographiques. Et un jour, le 9 janvier 1885, a lieu une grande réunion à la Société de géographie. Monsieur Monnoir, qui préside cette réunion, annonce qu'une médaille d'or est décernée au jeune explorateur Charles de Foucault pour toutes les cartes et renseignements qu'il a ramenés de son long voyage au Maroc.
Monsieur de Foucault était là tout à l'heure. Il est sans doute allé par modestie se dissimuler dans quelque coin. Mais je vous demande de l'applaudir, car c'est un voyageur de très grand avenir.
Après ce temps de vacances avec Marie et la famille, Foucault repart à Alger. Malheureusement, il tombe malade, une forte fièvre le cloue au lit. Alors, il retourne au Touquet, chez Marie, où il mène pendant l'été 1885 une vie de convalescent. Pendant sa maladie, Charles médite beaucoup. Il repense au Maroc, aux musulmans, et il réentend leurs prières qui s'élèvent 5 fois par jour vers le ciel. Allahu Akbar. Dieu est le plus grand. Charles recherche la vérité. Après sa guérison, il fréquente de plus en plus la maison de tante Inès, où il retrouve souvent Marie de Bondy, sa cousine. C'est là aussi qu'un jour, on lui présente
« Abbé Huvelin, bonjour. Charles, laisse-moi te présenter l'abbé Huvelin, le vicaire de notre paroisse Saint-Augustin. C'est un ancien normalien devenu prêtre. »
« Bonjour mon père, enchanté. »
« Bonjour mon fils. »
L'abbé Huvelin n'a pas la cinquantaine, mais il en paraît bien davantage. Les fatigues et les maladies marquent ses traits. Charles écoute, accueille. Il écoute l'abbé Huvelin. Il écoute le témoignage des musulmans, mais il n'est pas encore prêt à franchir le pas et à croire. Pourtant, il a soif de vérité, de solitude, de recueillement. Un jour, il entre à Saint-Augustin, l'église du père Uvelin. Et dans le silence, de temps à autre, il murmure tout bas cette prière.
« Mon Dieu, si vous existez, faites-le-moi connaître. »
Vers le milieu d'octobre 1886, il discute avec sa cousine, Marie.
Il paraît que l'abbé Yvelin ne reprendra pas ses conférences cette année, c'est dommage.
Oui, je le regrette, car je comptais bien les suivre.
Quelques jours plus tard, il confie à Marie.
Vous êtes bien heureuse de croire. Je cherche la lumière et je ne la trouve pas.
À la fin de ce même mois, entre le 27 et le 30 octobre, il se rend de bonne heure à l'église Saint-Augustin. Il n'a pas encore mangé. Il ne sait pas pourquoi il va à l'église, c'est comme s'il y était poussé. Il va trouver l'abbé Uvelin qui est à son confessionnal. Il ne s'agenouille pas. Il ne vient pas pour se confesser, mais pour lui poser des questions sur la religion chrétienne.
Je voudrais vous poser quelques questions sur la religion.
Mettez-vous à genoux, confessez-vous à Dieu. Vous croirez.
Mais je ne suis pas venu pour ça.
Confessez-vous.
L'abbé Uvelin avait deviné la recherche intense de Charles. Foucault est libre d'accepter ou de refuser. Il peut partir s'il le veut. Mais il reste. Il se met à genoux et confesse toute sa vie. Quand il se relève, il a retrouvé la foi, aussi forte que s'il ne l'avait jamais perdue. À ce moment-là, le prêtre lui demande
« Êtes-vous à jeun pour pouvoir communier ?»«
Oui, mon père. » »«
Alors, allez communier. »
Une nouvelle vie commence pour Foucault. Lui qui, depuis une quinzaine d'années, ne recevait plus les sacrements, vient chaque jour à la messe de l'abbé Uvelin. Il se confesse chaque semaine, communie presque tous les jours. Dès cette fin d'octobre 1886, Foucault dit
« Aussitôt que je crus qu'il y avait un Dieu, je compris que je ne pouvais faire autrement que de ne vivre que pour lui. »
Les mois qui suivirent furent difficiles pour Charles. Dans les commencements, la foi eut bien des obstacles à vaincre.
« Moi qui avais tant douté, je ne crus pas en un seul jour. Tantôt les miracles de l'Évangile me paraissaient incroyables. » Tantôt, je voulais entremêler des passages du Coran dans mes prières. Mais la grâce divine et les conseils de mon confesseur, l'abbé Uvelin, dissipèrent ces nuages. Je désirais être religieux, ne vivre que pour Dieu et faire ce qui était le plus parfait, quoi que ce fût. Mon confesseur me fit attendre 3 ans. Moi-même, je ne savais quel ordre choisir, dans quelle communauté entrer. L'Évangile me montra que le premier commandement était d'aimer Dieu de tout son cœur et qu'il fallait tout enfermer dans l'amour.
Un jour, il entend l'abbé Uvelin prononcer cette phrase.
« Notre Seigneur a tellement pris la dernière place que personne n'a pu la lui enlever. »
Foucault est bouleversé jusqu'au plus profond de son cœur. Cette parole devient le maître mot de sa vie. Il cherchera à son tour la dernière place parmi les hommes de son temps, parce que c'est là seulement qu'il pourra se tenir le plus près du Christ. C'est durant l'été 1888, pendant un séjour au château des Bondy, que Marie conseille à Charles d'aller visiter un monastère de trappistes. À la trappe, ce qui touche plus que tout le cœur de Foucault, c'est le misérable vêtement d'un frère, une tunique de travail toute rapiécée. Il découvre la pauvreté.
Celui-là a trouvé ici la dernière place, et son vêtement est le plus beau du monde.
Foucault est tellement bouleversé qu'il se demande s'il ne va pas entrer à la trappe.
Mon père, que me conseillez-vous? Je souhaiterais entrer à la trappe, mais peut-être que je me trompe.
Avant tout, faites le pèlerinage en Terre Sainte. Là, demandez à Dieu de vous éclairer.
C'est ainsi que le 25 décembre, Foucault entre dans Jérusalem. La ville est couverte de neige. Le cœur plein des souvenirs de l'Évangile, il met ses pas dans les pas de Jésus. Il visite tous les lieux saints. À Nazareth, il s'attarde longuement. Il prie. Foucault ne se sent pas appelé à suivre Jésus dans la vie publique. Mais par contre, le village de Nazareth le touche profondément. C'est là que Jésus a vécu 30 années dans le silence, la prière et le travail manuel, auprès de la Vierge Marie et de Joseph le charpentier. Foucault ne rêve plus que de mener la même vie. Il pense trouver cette vie à laquelle il aspire, chez les trappistes. Il entre à la trappe de Notre-Dame-des-Neiges en janvier 1890. Un moine lui demande
« Que savez-vous faire ?»«
Pas grand-chose. »
On lui donne un balai. Le 27 janvier, il entre en communauté comme postulant. 10 jours après, il prend l'habit des novices de cœur. Son nom de religion est Frère Marie Albéric. 6 mois après, il est envoyé en Syrie, à la trappe Notre-Dame du Sacré-Cœur. Là, les trappistes vivent dans une très très grande pauvreté. Frère Albéric est heureux ici, mais plus les mois passent, plus on cherche à lui confier des responsabilités. On commence à parler de lui et à envisager d'en faire, peut-être, le supérieur de la trappe en Syrie. On envisage aussi de lui faire commencer des études pour être ordonné prêtre. Il refuse tous ses honneurs et répète son désir de garder toujours la dernière place. Mais soudain, en avril 1893, il s'inquiète bien davantage. Le Saint-Père, dans une lettre aux trappistes, autorise ces derniers à utiliser l'huile et le beurre comme assaisonnement de leur régime végétarien. Cette autorisation est plus une recommandation. En effet, le pape souhaite que les moines ménagent mieux leur santé. Pour Frère Albéric, c'est très dur. Il écrit à Marie de Bondy.
« Depuis quelques semaines, nous n'avons plus notre chère cuisine au sel et à l'eau. On nous met je ne sais quoi de gras dans notre nourriture. Vous comprenez que je le regrette. Un peu moins de mortification, c'est un peu moins donné au bon Dieu. C'est un peu moins donné aux pauvres. C'est très pieux, très austère, très bien de toute manière. Et pourtant, soit dit entre vous et moi, ce n'est pas toute la pauvreté que je voudrais. »
Alors naît dans le cœur de Frère Albéric un grand projet. Ce qu'il faudrait, c'est fonder un ordre qui vive totalement la vie de Nazareth. Il en parle à l'abbé Huvelin dans une lettre. L'abbé réagit très vivement. Il craint un coup de tête.
« Continuez vos études de théologie, au moins jusqu'au diaconat. Pour le reste, on verra plus tard. Au surplus, vous n'êtes pas du tout fait pour conduire les autres. »
Ce projet continue pourtant de travailler le cœur de Frère Albéric. Alors, il écrit sa règle, la règle de vie de la maison de Nazareth. Il en envoie une copie à l'abbé Huvelin, qui, effaré, lui répond.
« Votre règle est absolument impraticable. À la règle franciscaine, le pape hésitait à donner son approbation. Il l'a trouvée trop sévère. Mais à ce règlement, à vous dire vrai, il m'a effrayé. Vivez à la porte d'une communauté, à la dernière place, comme vous le souhaitez, d'accord. Mais ne tracez pas de règles, je vous en supplie !»
L'abbé Huvelin s'oppose à la fondation, mais il ne refuse plus à Frère Albéric le droit de quitter la trappe pour vivre seul, comme un fou de Dieu, à la porte d'un monastère. Frère Albéric part. Son nom change alors. Il n'est plus le vicomte de Foucault, ni Frère Albéric. Il est simplement Frère Charles de Jésus. Il part en Terre Sainte pour regagner Nazareth. Il fait le voyage à pied et parvient à Nazareth le soir du 5 mars 1897. À Nazareth, il se présente à la porte d'un couvent, chez les Clarisses, et demande du travail. On le fait entrer dans un parloir.
Loué soit Jésus-Christ.
Ma sœur, y a-t-il du travail pour moi ? Je ne veux pas de salaire, seulement du pain et de l'eau, et un peu de temps libre pour prier.
Justement, nous avons besoin d'un homme pour servir de sacristain, faire quelques courses et quelques travaux manuels.
C'est ce que je souhaite, ma mère.
Il refuse le logement qu'on lui propose dans une maison de jardinier et préfère une cabane en planches au fond du jardin. Charles se met au travail. Il se fait maçon pour restaurer le mur qui entoure le terrain. Il fait le menuisier et bêche le jardin. Il n'est pas très habile en tout ceci, mais heureusement, sa principale occupation, c'est la sacristie. Il passe des heures et des heures en adoration. Il écrit à sa sœur.
« J'ai absolument ce que je rêvais depuis tant d'années, et on dirait que cette place m'attendait. Et en effet, elle m'attendait, car rien n'arrive par hasard, et tout ce qui se fait a été préparé par Dieu. Je suis serviteur, domestique, valet d'une pauvre communauté religieuse. »
Frère Charles rêvait d'être à Nazareth. Il y est et mène la vie qu'il souhaitait. Vie de dépouillement, de sacrifice, de pauvreté. Vie d'union profonde avec Dieu. Et pourtant, il n'est pas satisfait. Il est impatient de se dépouiller davantage de lui-même. Les Clarisses commencent à bien connaître Charles. Mère Élisabeth, la supérieure du couvent de Jérusalem, insiste pour que Charles se prépare au sacerdoce. Il accepte, mais il craint que ce soit un honneur. Comme saint François, il voudrait n'être qu'un simple petit frère. Il lui faut partir, car maintenant que les Clarisses le connaissent, elles prennent trop soin de lui et le gâtent. Il ne peut plus vivre ici la vie de pauvreté qu'il désire. Pour se préparer au sacerdoce, Charles reprend contact avec la trappe de Notre-Dame-des-Neiges. Il revient donc en France en août 1900 et est ordonné prêtre le 9 juin 1901. Il a déjà 42 ans. Où va-t-il repartir ? Il sent dans son cœur que Dieu l'appelle à vivre la vie de Nazareth, non en terre sainte, mais en terre d'islam. Le 6 septembre 1901, frère Charles repart à Alger. Après un mois passé chez les Pères Blancs, il part pour une oasis en plein désert, Beni Abbès, située tout près de la frontière marocaine. Elle compte plusieurs villages arabes, une garnison française et pas de prêtres. Charles veut être un pauvre parmi les pauvres. Son seul signe de reconnaissance, un cœur surmonté d'une croix. Très vite, Charles est accepté. Il se fait semblable aux pauvres. Il les accueille et leur distribue tout ce qu'il reçoit. Orge, dattes, pièces de tissu, etc. Il les héberge, prend avec eux leur repas. Il écrit à Monseigneur Guérin.
Pour avoir une idée juste de ma vie, il faut savoir que l'on frappe à ma porte au moins 10 fois par heure, plutôt plus que moins, des pauvres, des malades, des passants. Entrez !
Bonjour mon père, pardon de vous déranger. C'est ma mère qui m'envoie. Le père est très malade. Et nous n'avons rien pour le soigner, ni médicaments, ni argent pour en acheter.
Viens ici, bonhomme, que je te donne déjà de quoi manger un peu, car tu es bien maigre. As-tu déjeuné aujourd'hui ?
Non, mon père, je n'ai rien pris depuis hier.
Tiens, mange ces dattes. Quant à moi, je vais tout de suite aller voir ton père pour savoir exactement de quels médicaments il a besoin.
Il se bat contre l'esclavage, qui est très développé à cette époque dans toute l'Algérie. Le village de Beni Abbès prospère vite, et soudain ce sont les conflits, les tensions inévitables. Des nomades, 4000 guerriers berbères du Tafilalet, avec leurs femmes et leurs enfants, peuple en marche vers le désert, attaquent le 18 août 1902 le village de Taghit. Peu après, il réattaque le 2 septembre. Les blessés sont de plus en plus nombreux et Charles demande la permission de se rendre à Tagit pour soigner les blessés et assister les mourants. Charles part à cheval. Quelqu'un s'écrie en le voyant.
« C'est de la folie. Les conflits à Tagit sont encore violents. Il ne reviendra pas. »
« Il reviendra. Lui ne pourrait pas vous dire cela par modestie. Mais sachez-le, il est le seul qui puisse traverser toutes les zones de conflit sans que quiconque porte la main sur lui. Il est respecté de tous parce qu'il est un homme de Dieu. »
Les mois passent à Beni Abbès. Le frère Charles est très proche des musulmans à qui il parle de Dieu. Puis c'est un nouveau changement. Le père de Foucault entend parler des Touaregs, ce peuple musulman perdu au fond du désert. Frère Charles est le seul prêtre qui puisse aller vivre avec ce peuple, le seul qui se soit suffisamment intégré à la vie de ces hommes du désert pour être l'un des leurs. Il part pour le Hogar. Déjà, il trace son nouveau programme de vie.
M'installer chez les Touaregs, aussi au cœur du pays que possible. J'y prierai, j'y étudierai la langue et traduirai le Saint-Évangile. Je me mettrai en relation avec les Touaregs. Chemin faisant, j'administrerai les sacrements à tous les postes et je causerai du bon Dieu sur mon passage avec les habitants.
Il ne part que le 13 janvier 1904, car son voyage fut retardé par des combats au Hogar et à Tagit. Il s'installe au Hogar, à Tamanrasset, le 13 août 1905. Il est seul au milieu d'une poignée de Touaregs. Les premiers soldats blancs sont à 800 km. Le frère Charles a été confié aux Touaregs. Ceux-ci voient qu'on leur fait confiance, mais cet homme les intrigue.
C'est un marabout.
Mais il est chrétien, il n'est pas musulman.
Oui, et en plus, il donne des aumônes. Il ne fait pas de quête.
Et puis... pourquoi a-t-il quitté les siens pour vivre au milieu de nous ?
Les Touaregs se posent mille questions sur ce drôle de marabout toujours accueillant, toujours prêt à dialoguer, à aider. Et pour Charles, c'est difficile.
Je tâche d'apprivoiser les Touaregs, très méfiants et très sauvages, parce qu'ils nous connaissent très mal et ont été bercés par les histoires invraisemblables que l'on raconte ici à notre sujet.
Tamanrasset est un grand lieu de passage pour tous les Touaregs en déplacement. Le père s'est posté au meilleur endroit pour recevoir de nombreuses visites, sans avoir à trop voyager. Le 12 septembre 1905, le père quitte Tamanrasset et se rend à Beni Abbès pour discuter avec Monseigneur Guérin, son supérieur, et pour se confesser. Et là, coup de théâtre, il rencontre un jeune breton, frère Michel.
« Mon père, j'ai beaucoup entendu parler de ce que vous faites au Hogar, et j'ai le désir moi aussi de vivre selon la règle de vie que vous suivez. »«
Formidable ! Allons voir Monseigneur Guérin. »
Monseigneur Guérin approuve le projet. Charles a donc maintenant un compagnon. C'est peut-être le début de la petite communauté qu'il a le désir de fonder depuis si longtemps. Malheureusement, 3 mois plus tard, frère Michel tombe malade. Il a la dysenterie. Il ne peut plus rester au Hogar. Michel retourne donc chez les Pères Blancs. L'année 1908 est une année très dure pour le pays. Il n'a pas plu depuis 17 mois. C'est la famine. Dans son ermitage de Tamanrasset, le frère Charles se surmène. Très mal nourri, il souffre de scorbut. Il est fiévreux et respire difficilement. Il tombe gravement malade car il distribue chaque jour toute sa nourriture, sans garder pour lui le nécessaire pour vivre. Il écrit à sa cousine
« Sans tousser, sans souffrir en rien de la poitrine, le moindre mouvement me rendait haletant, au point d'être prêt de m'évanouir. » Un ou deux jours, j'ai cru que c'était la fin.
Ce sont les Touaregs qui lui sauvent la vie, en lui amenant chaque jour du lait de chèvre, dont ils manquaient eux-mêmes en cette période de famine. En décembre 1908, le père rentre en France, non pour se reposer, mais pour fonder l'union des frères et sœurs du Sacré-Cœur de Jésus. En effet, dans l'immense désert, il est le seul prêtre ermite. Il faut qu'après sa mort, une petite fraternité continue de s'occuper de son apostolat. Il ne peut pas être présent partout et cherche des aides qui ont aussi au cœur cette soif, ce désir de tout donner pour les Touaregs. En 1910, Mgr Guérin et l'abbé Uvelin meurent. Le 1er juillet 1911, Charles part pour la Sécrème, un petit ermitage qu'il a construit pour être plus proche des nomades. Cet ermitage est situé plus en altitude et il est plus austère.
Je suis absolument seul, en haut d'un mont qui domine presque tous les autres. La vue est merveilleuse. C'est une belle solitude que j'aime énormément.
Mais même là, le père est souvent sollicité pour être arbitre dans les querelles des Touaregs entre eux et pour les aider dans leurs relations souvent difficiles avec les autorités militaires.
Mon père, un brigadier français a fait périr deux chameaux en désorganisant le rationnement de l'eau. Et puis, il a violenté une jeune fille, parente de Moussa.
Moussa est le chef du village de Tamanrasset. Pour frère Charles, ses actes sont une atteinte à cette paix et à cette union qu'il cherche à obtenir avec les Touaregs. Alors il intervient auprès des officiers français et demande justice pour les Touaregs. C'est ainsi qu'il devient l'ami de Moussa et des autres habitants. Les conflits se multiplient, vols de chameaux, combats, etc. Et c'est l'annonce de la déclaration de guerre en 1914. Les Italiens entrent en Tripolitaine. Un réseau marocain, un groupement d'hommes armés, a failli capturer Moussa, le chef du hameau de Tamanrasset. Tamanrasset est de plus en plus attaqué par les réseaux marocains. Les conflits s'y multiplient, loin de tout poste français. Le lieutenant Constant, qui est responsable du fort français le plus proche, a voulu offrir l'hospitalité au frère Charles. Mais celui-ci refuse. Il veut rester à Tamanrasset avec les Touaregs. Par contre, il accepte l'idée de construire, à Tamanrasset, un petit fortin où il pourra s'abriter avec les Touaregs si les réseaux marocains attaquent. En juin 1916, le petit fortin est presque terminé. Charles écrit.
Le coin du Sahara d'où je t'écris est toujours calme. Pourtant, on se tient sur le qui-vive, à cause de l'agitation croissante des Sénoucites en Tripolitaine. Nos Touaregs d'ici sont fidèles, mais nous pourrions être attaqués par les Tripolitains. J'ai déménagé dans un petit fortin. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On m'a confié 6 caisses de cartouches et 30 carabines qui me rappellent notre jeunesse.
Au petit fortin, le père veille sur les armes. Mais à part ça, il vit exactement comme quand il était dans son ermitage. Chaque matin, il célèbre la messe. Toute sa journée est occupée, comme avant, par les prières, les visites et les travaux linguistiques. En effet, il prépare des dictionnaires, grammaires, etc. pour faciliter l'apprentissage de la langue des Touaregs. Il souhaite aussi connaître la langue des Touaregs pour mieux pouvoir les comprendre et les aimer. La situation générale ne s'arrange pas. Les tensions redoublent entre les Touaregs fidèles et les Touaregs infidèles. D'autre part, les officiers français doivent se retirer de quelques kilomètres. C'est comme cela qu'en octobre, la frontière du Hoggar n'est plus du tout protégée. En septembre, le père Charles avait appris que des Touaregs d'Amgel avaient projeté de l'assassiner. Il n'a rien dit à personne. Le 1er décembre 1916, le père est seul dans le petit fortin. Il écrit à la Périne, son amie.
« Ici grand calme, excellente attitude de la population. » Vous ai-je dit que j'ai achevé la copie pour l'impression des poésies et des proverbes ? Il reste la revue des textes en prose, et enfin la grammaire, qui m'effraie d'avance, mais qu'il faudra bien tâcher de mettre tant bien que mal sur pied.
À sa sœur, Marie.
Que le bon Dieu vous conserve tous en bonne santé, jusqu'à mon retour en France après la victoire. J'espère pouvoir y passer plusieurs mois, et vivre de bons jours, de bonnes semaines auprès de vous.
À sa cousine, Marie de Bondy.
Notre anéantissement est le moyen le plus puissant que nous ayons de nous unir à Jésus et de faire du bien aux âmes.
Charles a 58 ans. Dans Tamanrasset, deux méharistes arabes sont de passage. Ils vont venir tout à l'heure prendre le courrier du père. Soudain, vers 7 heures du soir, le père entend frapper à la porte. Il écoute, il entend une voix qu'il reconnaît. C'est celle d'un Touareg d'Amgel, El Madani. Plusieurs fois, le père a soigné et secouru cet homme.
« Voilà le courrier !»
Le père ouvre la porte et tend la main. À cet instant, des mains puissantes le saisissent, le tirent en avant. On le ligote, on le jette par terre, agenouillé, les mains liées derrière le dos. Il y a là une trentaine de Touaregs qui appartiennent à des tribus voisines, des tribus de Touaregs révoltés. Mais on ne voit aucun habitant de Tamanrasset. Pendant 30 minutes, qui sont longues, très longues, le père voit aller et venir les sénoucistes. Ils sortent du fortin tout ce qu'ils peuvent voler. Le père ne dit rien, il n'attend que la mort et le Christ. Les deux méharistes qui ont passé la journée dans le village n'ont rien entendu et viennent tranquillement chercher le courrier. Dès qu'ils paraissent, les sénoucistes se précipitent et tirent de tous côtés contre les deux arabes. Resté seul auprès du père, son gardien, un adolescent âgé de 15 ans s'affole. Croit-il que son prisonnier va lui échapper ? Il tire un coup de fusil, à bout portant. D'un seul coup, le père est foudroyé. Au bruit de la fusillade, les Touaregs du village accourent. Ils arrivent trop tard. Les Touaregs enterrent le père dans le fossé du petit fortin, sans même défaire ses liens. Le frère Charles est mort sans laisser dans le désert un prêtre qui lui succède. Et pourtant, dans les trois voyages qu'il fit en France en 1909, 1911 et 1913, il a travaillé à faire naître l'union des frères et sœurs du Sacré-Cœur de Jésus. Au moment où le père meurt, ses frères et sœurs sont déjà 49, qui partagent l'idéal du père de Foucault et s'efforcent de s'y unir autant qu'il leur est possible. Cette petite poignée d'hommes et de femmes ne va pas disparaître avec son fondateur. Au contraire, elle grandit. Et en 1919, devient l'association Foucault. Par la suite, ce sont trois fondations. En 1933, les Petits Frères de Jésus et les Petites Sœurs du Sacré-Cœur, qui se rattachent aussi à la spiritualité du Père Charles. En 1939, les Petites Sœurs de Jésus. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout. J'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père.
Oh mon Père,
oh mon Père,
je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. Ô mon Père,
ô mon
il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Quoi que tu fasses de moi, je suis prêt à tout. Quoi que tu fasses de moi, j'accepte tout. Pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures. Ô mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Ô mon Père, je m'abandonne. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que se met un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Ce qu'il te plaira.